réveil sonne. Tu ne bouges absolument pas. Tu restes dans ton lit. Tu refermes les yeux.
Comment, 6 heures?
Bonjour tout le monde, nous sommes le mardi 8 décembre 2015. Merci de vous réveiller avec Un autre jour est possible, votre réveil culturel. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Lamia Ziadeh et de Nikita Harwich. Nikita Harwich, historien du chocolat, dans un instant. C'est notre série consacrée à l'histoire du chocolat. Le chocolat, toute une histoire qui continue. Deuxième épisode, le cacao traverse l'Atlantique. Et puis en deuxième partie, je reçois Lamia Ziadeh pour son beau roman graphique édité chez POL et qui nous replonge dans un proche et moyen Orient qui semble très très lointain. Celui de l'âge d'or des grands metteurs en scène, des grandes cantatrices comme Oum Kalsoum ou des comédiens célèbres comme Omar Sharif, Fatan Hamama ou la grande danseuse Samia Gamel. On en parle tout à l'heure aux alentours de 6h20. Mais tout de suite, Tête chercheuse avec Nikita Harwich. Le chocolat, toute une histoire par Nikita Harwich.
C'est à la suite de la conquête du Mexique que le cacao a traversé l'Atlantique avec la recette pour la préparation du chocolat. Mais on n'est pas très sûr de la date. Les indices que c'est Cortés lui-même qui, au retour en Espagne en 1528, aurait apporté des fèves avec lui. D'autres disent que c'est l'un des missionnaires qui l'accompagnait. D'autres disent que c'est plus tard. En fait, on sait qu'au milieu du XVIe siècle, les premières fèves étaient déjà présentes en Espagne, mais la première cargaison avérée de cacao en provenance d'Amérique centrale pour l'Espagne n'arrive au port de Cadix et de Séville finalement que dans les années 1580. Bon. Pendant ce temps, quand même, le chocolat a connu une grande transformation, qui est le résultat de la conquête espagnole, c'est que pour tempérer l'amertume du breuvage, on y ajoute du sucre.
Et ça, c'est déjà donc.
Oui, ça c'est très important parce que il faut bien préciser qu'à l'époque précolombienne, le chocolat était bu épicé, avec différentes épices, ça va depuis la vanille, le piment, etc. Mais les Européens ont ajouté du sucre et ce mélange s'est fait pour la première fois en Nouvelle-Espagne, c'est-à-dire Mexique, et en traversant l'Atlantique, la recette de préparation du chocolat va préconiser l'utilisation de sucre.
On parle toujours de la boisson, Nikita Harwich, hein, il faut le préciser. Hein.
Tout à fait, la boisson, ce n'est pas avant le milieu du XVIIIe siècle qu'on en fera autre chose. D'abord parce que le processus de préparation, d'élaboration du chocolat n'est pas facile à maîtriser. Il faut broyer les fèves d'une certaine manière, il faut réduire cette pâte, puis après la sécher, la râper pour en faire une poudre, ajouter les ingrédients, battre le liquide. En fait, c'est tout un processus qui fait que le chocolat sera pendant plusieurs siècles assimilé non pas tant à une friandise mais plutôt à un médicament. Ses qualités revigorantes en feront pendant plus de 2 siècles un aliment que l'on vend dans les officines d'apothicaires pour les gens qui souffrent de maladies, de consomption, et on en fait même on la recommande comme reconstituant pour les malades. il faut préciser aussi que pendant ces premiers siècles européens du cacao et du chocolat, c'est une boisson exclusivement adulte. On dit que c'est pas bon pour les enfants parce que, bon, comme tous ces produits un petit peu exotiques, on ne sait pas trop quelles sont les vertus réelles ou supposées qui peuvent être attachées à ces produits. Et le cacao, bon, comme beaucoup de produits américains, ramène avec lui une réputation sulfureuse. On dit que ce serait peut-être un aphrodisiaque. Alors donc, on ne le donne pas aux enfants. Et ce n'est qu'à l'extrême fin du XVIIIe siècle que les préjugés commencent à changer.
Mais quand le chocolat arrive, la boisson donc, arrive en Espagne, est-ce que ce chocolat arrive avec toute l'histoire des Mayas, des Aztèques? Est-ce que c'est un produit de luxe déjà?
Ah oui, non, tout à fait, pour deux raisons. D'abord parce que la production est quand même très limitée, et aussi parce que en y ajoutant du sucre et les épices qui vont avec, cela renchérit encore plus le coût de préparation du chocolat. On oublie à l'heure actuelle que du 16e à l'extrême fin du 18e, début du 19e siècle, le sucre est un luxe. C'est très très cher, on en consomme peu. Et finalement, le chocolat unit deux éléments de grande rareté. C'est si vous voulez, le caviar plus la truffe blanche italienne. Hein. C'est très, très, très cher. Donc, peu de gens peuvent en consommer et peu de gens peuvent en plus en consommer régulièrement. C'est donc une boisson des grands, de la noblesse, de la cour, et ce qui contribue aussi à en pérenniser l'image de quelque chose de très spécial. Après tout, la saveur du chocolat est quelque chose de tout à fait particulier, de tout à fait nouveau. Et avec l'habitude de travailler la pâte de chocolat, un certain nombre d'innovations pourront être apportées, essentiellement dans la première moitié du XVIIIe siècle, ce qui permettra de varier un petit peu les préparations. On peut maintenant, avec de la poudre de chocolat, faire des glaces, des crèmes glacées, des desserts au chocolat, et les premiers bonbons rudimentaires qui apparaissent, disons, dans la seconde moitié du XVIIIe siècle. Mais ce sont encore, disons, véritablement des pastilles de chocolat. La consistance nous paraîtrait assez étrange, très granuleuse, parce qu'on n'a pas encore tout à fait maîtrisé la technique de préparation.
Mais restons en Espagne, donc au milieu et à la fin du XVIe siècle, comment ce produit ramené d'Amérique centrale va-t-il devenir un produit européen? Est-ce qu'on peut parler déjà, Nikita Arvich, d'un enjeu commercial à cette époque? Autour
oui,
du chocolat.
Tout à fait, je dirais pour à travers deux circuits bien distincts. Le premier, c'est le circuit de commercialisation et de distribution que constituent les ordres religieux, particulièrement les franciscains qui sont installés en Nouvelle-Espagne depuis la conquête. Et les ordres religieux, vous savez, jouent autant le rôle conquête des âmes qu'on leur attribue, mais aussi un rôle de recherche scientifique. Alors finalement, tous les monastères sont un peu des laboratoires où on élabore des médicaments, des nouveaux produits, et finalement c'est à travers les différentes manifestations, les différents monastères qui se trouvent dans toute l'Europe chrétienne, que le chocolat va peu à peu sortir d'Espagne et passer dans les différents pays européens.
Mais alors comment, de quelle manière va-t-il sortir des frontières de l'Empire espagnol ?
Eh bien, par différents envois, on envoie des petites quantités, et comme la boisson plaît, on voit des applications, eh bien, des quantités vont croissant, et c'est là que va rentrer en jeu le deuxième circuit, si vous voulez, de distribution, qui est un circuit commercial, essentiellement cherchant à circonvenir le monopole que l'Espagne veut garder sur les produits des terres américaines. Alors, c'est un monopole qui va être battu en brèche, en particulier par les marchands et corsaires néerlandais, qui vont être aidés dans ce domaine par la communauté juive installée à la fois en Nouvelle-Espagne clandestinement et à Amsterdam, et finalement, dès le milieu du XVIIe siècle, ce n'est plus l'Espagne, mais Amsterdam qui sert de point de distribution pour ces produits coloniaux, on les appelle pas encore comme ça, mais enfin, c'est les produits coloniaux exotiques, comme le cacao, le sucre, puis après le poivre, le café, etc. Et qui vont être redistribués dans toute l'Europe, à la fois en Europe du Nord et en Europe méditerranéenne.
Diriez-vous que c'était la première guerre du chocolat ?
Dans une certaine mesure, oui, si vous le voulez, dans la mesure où au départ, l'Espagne voulait garder un monopole qu'elle a bien évidemment été obligée de voir battu en brèche. C'est d'ailleurs comme ça que la première industrie chocolatière, enfin industrie, manufacture chocolatière s'est établie en France. C'était le cacao introduit clandestinement des provinces basques qui est arrivé dans le Pays basque français. Ouais. Et c'est pour ça que Bayonne est devenue une des premières capitales françaises du chocolat à la fin du XVIIe siècle.
C'est ce qu'on verra demain en profondeur. Mais dernière question pour cet épisode. Quelles conséquences sur la culture du cacao en Amérique centrale que cette découverte en Europe du chocolat ?
Alors, ça a eu comme conséquence, évidemment, d'augmenter la production, même si il faut considérer que l'Amérique centrale, en particulier la Nouvelle-Espagne, restera jusqu'au XVIIIe siècle le premier marché mondial de consommation de cacao et de chocolat. Mais les aires de production vont être considérablement augmentées, vont s'étendre en Amérique centrale, aux Antilles et en Amérique du Sud, essentiellement dans deux régions, le Venezuela tout d'abord, l'Équateur ensuite, et enfin au XVIIIe siècle, un petit peu dans l'Amazonie brésilienne. Et disons que l'Amérique, de ce point de vue-là, l'Amérique hispanique, va consolider sa position en termes de production. Ça restera le continent producteur de cacao jusqu'à la fin du XIXe siècle.
Merci beaucoup Nikita Harvitch. On se retrouve demain pour le troisième épisode de cette histoire du chocolat. C'est toute une histoire et demain on parlera de la naissance d'une industrie spécifique. À demain.
Chocolate man done come to town. I'm the chocolate man. I'm the chocolate man. I got chocolate kisses. Get them from me while you can.
Make you pretty girls jump and shout. Run and tell your mama what it's all about. I'm the chocolate man. I'm the chocolate man.
Un autre jour est possible. Votre réveil culturel, tous les jours, de 6h à 6h30, par Toufik Hakem. Deuxième partie, l'invité du jour.
Bonjour les Miaziadés.
Bonjour.
Avec vous ce matin, on va évoquer d'autres icônes, des astres, des étoiles, des divas, les grandes légendes de la chanson et du cinéma arabe du XXe siècle. Vous leur rendez un bel hommage dans un tout aussi bel ouvrage intitulé « Ô mes nuits, ô mes yeux ». Et ce roman graphique est édité par POL. Des textes, des dessins pour rappeler le contexte et raconter le destin de quelques noms qui ont brillé dans ce monde arabe au début du XXe siècle. La cantatrice Oum Kelsoum, bien sûr, mais aussi Fayrouz, la Libanaise, les couples mythiques et glamour des studios Misr, la très énigmatique princesse Asmahan, son frère Farid al-Atrash, Samia Gamel, Leila Mourad, Camélia, Tahia Kariouka, mais aussi les casinos du Caire, les Dancing de Beyrouth, l'auberge des pyramides. Tous ces noms évoquent un passé, un âge d'or, mais peut-être que c'est oublier aussi le contexte tortueux de l'époque, parce que c'est dans un chamboulement historique que la culture arabe a produit ces dernières icônes auxquelles vous vous référez dans votre livre, Lamia Ziadé.
Aujourd'hui, on a du mal à imaginer que cette époque a pu exister avec ce qui se passe actuellement au Moyen-Orient, le terrorisme, les guerres, et c'est tout ce dont on entend parler, en tout cas en Occident et même sur place. Et c'est un peu ça que j'ai voulu éviter parler d'un âge d'or que les Occidentaux ne connaissent pas, qu'on soupçonne même pas en Occident, et que nous-mêmes les Arabes, nous avons oublié qu'il a jamais existé. Quand on regarde les films égyptiens de l'époque, on a du mal à imaginer que ça a pu être plus sensuel même que des scènes de films musicaux hollywoodiens. Il suffit de voir des scènes avec Samia Gamal ou Tahia Carioca, qu'on peut voir. D'ailleurs, j'ai fait un site où il y a une centaine de vidéos d'extraits de films qui a le même titre que le livre « Aux nuits, aux mes yeux ». C'est vraiment incroyable, et c'est un peu cette époque que j'ai voulu recréer pour un peu comme pour conjurer le sort qui s'acharne en ce moment sur le monde arabe.
Et pourtant, quand vous racontez l'histoire d'Oum Kalsoum, d'Esmahan, l'arrière-fond politique n'est pas non plus un long fleuve tranquille, hein. Il y a des guerres, des chamboulements,
La décolonisation surtout, donc la lutte contre les Français et les Anglais, les Français en Syrie et au Liban, les Anglais au Caire, en Égypte. Et ces chanteuses ou actrices ont souvent soutenu cette lutte, que ce soit celle du début du siècle, comme Rosel Youssef, qui était une actrice qui a fondé le premier journal qui porte son nom d'ailleurs,
qui existe
toujours au Caire, ou Munira al-Mahdiya, qui était surnommée la sultane du Tarab, du chant qui mène à l'extase, et qui avait un cabaret où elle chantait des chansons anticoloniales. D'ailleurs, le cabaret se faisait souvent fermer par les autorités britanniques. Et ensuite, après, Oum Kalsoum, bien sûr, qui a soutenu Nasser, vraiment que toute son énergie, et Esmahan, qui a aidé les alliés pendant la Deuxième Guerre mondiale.
Voilà. Mais tout ça pour rappeler que l'instabilité politique était déjà présente, mais on a l'impression qu'à cette époque-là, les Arabes pensaient au progrès, qu'ils allaient s'émanciper.
Oui,
c'est la chronique de ce rêve d'émancipation que vous nous racontez à travers quelques figures emblématiques de la chanson et du cinéma, Lamia Ziadeh.
Oui, c'est la suite de la Nahda, qui est la renaissance arabe qui a commencé au 19e siècle et qui s'est poursuivie donc dans le début du 20e jusqu'à à peu près le milieu du 20e siècle. Et oui, c'est sûr que c'était pas un long fleuve tranquille politiquement, mais la tolérance était là, et ça c'est quelque chose qui a disparu depuis avec la montée de l'intégrisme à partir des années 70. Et c'est ça que j'avais vraiment envie de montrer aussi, que ces actrices, ces chanteuses, elles sont de toutes origines, elles sont toutes allées au Caire pour chanter, mais elles venaient de Syrie, d'Irak, de Palestine, du Liban, tout le monde allait au Caire, c'était le Hollywood de l'époque.
Quelle que soit sa confession d'ailleurs, parce que vous racontez...
Voilà, des confessions aussi différentes, il y avait Leila Mourad qui était la plus grande star
dans cette émission.
C'était la plus grande star du cinéma arabe, et elle était juive, et ça ne dérangeait personne. C'était vraiment pas quelque chose d'exceptionnel avant 1967, en tout cas.
Alors, cette histoire est racontée avec des dessins, ou très beaux dessins, qui s'inspirent d'ailleurs du style graphique de l'époque, des affiches de cinéma égyptien de l'époque, c'est très beau, et des textes. Et pour raconter cette histoire arabe, ces histoires de stars, vous n'allez pas seulement utiliser les biographies officielles, mais vous allez utiliser la mémoire de votre famille, les petites histoires racontées par vos grands-parents servent aussi de fil narratif.
Oui, c'est des petites anecdotes, c'est pas très important dans le récit, mais ça rythme le récit d'une manière personnelle, comme par exemple le fait aussi que j'ai habité toute mon enfance au bout de la rue où il y avait la villa Esmahan, la villa qu'Esmahan a habité quand elle était en résidence surveillée à Beyrouth avant sa mort au Caire. Et oui, ces choses-là rythment le récit. Mais j'ai rencontré aussi des experts égyptiens et libanais, et aussi des gens des familles. J'ai rencontré par exemple le petit-fils d'Esmahan, qui m'a raconté des anecdotes, pas sur elle, mais sur Farid Latrache, qui était le frère d'Esmahan et que lui a bien connu, parce que Farid est mort dans les années 70, donc pas si longtemps que ça.
تشري يا أحلى الليالي أين أنت الآن من ليل هواني.
Esmahan, bien sûr, vous connaissez cette chanson.
Oui, oui, toutes les chansons d'Esmahan, je les connais parce qu'il n'y en a pas tant que ça. Elle est morte à 27 ans, donc
très
elle
n'a
pas... Elle n'a pas chanté comme Oum Kalsoum, 270 chansons.
Mais quelle princesse, quel personnage romanesque. D'ailleurs, dans un de vos dessins, elle est carrément déguisée en homme pour se faire passer à la manière d'Isabelle et Bérard rencontrer les tribus bédouines. Elle le faisait ça, mais sauf qu'on apprend à travers votre livre, La Miaziadée, qu'elle a eu un rôle politique à la manière de Laurence d'Arabie.
Elle a aidé les Alliés à
elle était espionne pendant la Seconde Guerre mondiale. Ouais.
À convaincre. Elle était d'une famille d'émirs druzes, du Jabal Druze en Syrie, dans le sud de la Syrie, et elle a aidé à convaincre ces druzes qu'il fallait soutenir plutôt les Alliés que les Allemands, parce que les Allemands c'est aussi une option pour se débarrasser des colonisateurs français qui étaient vichistes à l'époque en Syrie et au Liban. Et elle les a convaincus que c'était plutôt les Anglais et les Français libres qu'il fallait soutenir pour avoir l'indépendance.
Et c'était donc pas seulement la petite princesse
qui
chantait dans les cabarets les plus chics du Caire. Autre destin exceptionnel, celui de Mohamed Qassabji.
Ah, très triste destin, oui. C'était un des plus grands compositeurs du début du siècle jusqu'aux années 50 en Égypte. Et il était joueur de oud et c'était vraiment...
Le luth arabe, ouais.
Oui, et c'était un grand expert de musique savante. Il a eu comme élève Farid al-Atrash, Mohamed Abdel Wahab. C'était vraiment quelqu'un de très important. Et il a fini sa vie joueur de oud uniquement dans l'orchestre de Oum Kalsoum, après lui avoir écrit ses plus belles chansons qui l'ont rendu célèbre.
Bah oui, mais il était avec elle depuis le début.
Oui, et elle a été vraiment... elle avait un caractère très autoritaire et agressif, mais avec lui, elle a été vraiment atroce, quoi. Elle le rabrouait tout le temps, mais il a toujours été à ses côtés. Et il disait que son plus cher souhait était de mourir en jouant du oud derrière elle et qu'il... Ça lui était égal de ne plus jamais rien composer parce qu'elle l'a empêché de composer pour qui que ce soit d'autre qu'elle et pour elle-même. Son génie s'est tari à partir de 1945 à peu près.
Et puis on arrive à Oum Kalsoum, bien sûr, inévitable, l'astre de l'Orient et sa chanson Al-Atlal. Ça veut dire les ruines et vous l'expliquez très bien dans un texte parfait. Oum Kalsoum travaille à une nouvelle chanson composée par Sambati. Elle ne le sait pas encore et personne autour d'elle ne s'en doute, mais cette chanson va prendre, quelques temps après le jeudi de sa sortie, une signification particulière pour le monde arabe tout entier. Une signification douloureuse et définitive. Cette chanson sera chantée pour la première fois en 1966. Un an plus tard, elle n'aura plus le même sens. Al-Atlal, c'est le titre de la chanson, les ruines. Il s'agit dans le poème des ruines d'un amour fini, des vestiges qui laissent derrière elle l'amante quand elle s'en va. Mais à partir de juin 67, cette chanson n'évoquera plus ces ruines-là. Elle aura une telle portée symbolique après la défaite qu'elle deviendra la plus populaire d'Oum Kalsoum jusqu'à sa mort, revêtant désormais toute la détresse des peuples arabes. Nous sommes à un mois du concert, Sambati retravaille la chanson depuis des mois. Depuis quelques semaines, il est satisfait de ce qu'il a écrit, mais aujourd'hui, il est anéanti. La journée de répétition va commencer, Rami et Abdelwahab sont là aussi, les mines sont lugubres, les yeux sont rougis et gonflés. On ne voit pas ce Oum Kalsoum derrière ses lunettes, mais elle est pâle, un rictus à la bouche. Le sens funèbre que prendra cette chanson après la Nakba n'y est évidemment pas pour rien. C'est un drame d'un tout autre genre qui trouble les regards aujourd'hui. Qassabji vient de mourir. le mentor est mort, le prodige, le souffre-douleur, le génie, la victime, le virtuose, la tête de turc, le dévoué, le blessé, le compagnon d'une vie. On dit que le pauvre Kassabji lui a encore proposé une nouvelle chanson il y a moins de 3 mois, encouragée par le fait qu'elle ait accepté de chanter Abdel Wahab. Elle lui a refusé. Le prochain concert sera le premier de sa vie sans Kassabji derrière elle. Il y a 39 ans, la première fois qu'elle avait chanté accompagnée d'instruments de musique, il était là. Une tristesse infinie enveloppe le premier concert sans Kassabji. Dans l'orchestre, sa chaise est là, derrière elle, vide, et son oud est posé dessus, retourné. Sanbati a supprimé l'instrument de sa composition pour l'Atlal. Il n'y a pas de oud dans les ruines. Funeste augure. Il n'y en aura plus dans tous les concerts suivants. Mohamed el-Kassabji ne sera pas remplacé avant des années dans l'orchestre d'Oum Kalsoum. De toute façon, à partir de maintenant, rien ne sera plus comme avant. Voilà, c'est un extrait de votre livre.
Très triste.
Très poignant.
Ça me fait pleurer moi-même.
Mais moi aussi, on va pleurer ce matin.
يا فؤادي يا فؤادي لا تسأل أين الغوى يا فؤادي يا فؤادي لا تسأل أين الهوى كان صرحا من خيال فهوى
Que dire ? Oh mes nuits, oh mes yeux. C'est tiré bien sûr d'une chanson, il faut le rappeler peut-être.
Oui, c'est pas une chanson, c'est le début de l'Ayali. Toutes les chansons commencent par ces paroles sur lesquelles le chanteur ou la chanteuse improvise, fait des variations, des modulations, etc. Et ça annonce la chanson qui suit après.
Merci Lamia Ziadeh. Générique de fin.
Merci. C'était Un autre jour est possible, une émission de Taoufik Hakem tous les matins à 6h ou quand vous voulez, en passant par l'écoute en ligne ou le podcast, disponible sur franceculture.fr. Pour vos remarques, suggestions et interrogations, retrouvez-nous sur les réseaux sociaux habituels. Un autre jour est possible a été préparé par Anaïs Isbert et Pascaline Bonnet. À la technique, Bernard Laniel, une réalisation de Thomas Duterre.
Merci Lamia Ziadeh, ça a été un plaisir de vous recevoir ce matin.
Merci à vous.
Bonne journée sur France Culture, on se retrouve demain à la même heure.